Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations et explore l'art de bien vieillir. Je me faisais la réflexion dernièrement que lorsqu'on prend de l'âge, dans nos muscles, dans notre énergie, on doit accepter de passer du rôle de celui qui aide à celui qui est aidé. Et qui en fait, toute notre vie, on alterne entre ces moments où on aide et ces moments où on est aidé. Enfant, nous sommes aidés. Quelqu'un s'occupe de nous. Adulte, c'est nous qui aidons. Et on doit, par nous-mêmes, prendre soin de nous. Puis en prenant de l'âge, on doit accepter que notre santé physique n'est plus ce qu'elle était et accepter d'être aidé. Alors que pourtant, au niveau de notre énergie mentale, de nos expériences de vie, de nos conseils de vie, c'est peut-être le moment où on est justement dans l'optique de pouvoir aider les autres avec toute la transmission. Donc, arrive un âge où nos capacités cérébrales font qu'on n'est plus capable même de jouer ce rôle-là de mentor. Donc, comment passer à travers ces différentes étapes entre celui d'aider et celui d'être aidé? J'en discute avec Nathalie Désiel, directrice du regroupement des aidants et des aidantes naturelles, pour savoir c'est quoi un aidant, comment aider quelqu'un qui ne veut pas nécessairement être aidé et comment toi, soi-même, se faire aider quand on est un aidant. Être un aidant, c'est être là pour quelqu'un. Cette personne-là n'est pas seule et on ne l'est pas non plus. On s'en occupe et ça nous occupe. Et bien que ce soit un rôle qui soit très énergivore en termes de temps, il reste qu'on se sent utile. On a du temps plus tard pour soi et là, quand on arrive à un moment où on passe de pas de temps pour soi à trop de temps pour soi, là, on peut connaître la solitude. Comment s'occuper quand on est seul? Et comment profiter de sa solitude pour en faire quelque chose de beau et de signifiant? J'en parle en seconde partie d'Au fil du temps avec une femme que j'ai toujours trouvée inspirante, belle, lumineuse. Une grande actrice, une écrivaine touchante, une chanteuse magnifique, Madame Louise Portal. Louise a écrit un essai sur la solitude appelé « Seule, ces femmes que j'aime » publié chez Druide, qui est un beau bouquet de 15 récits de femmes pour qui la solitude a été un tremplin pour reconnecter à soi et se réinventer. Alors, pour lancer cette 39e émission d'Au fil du temps, avant d'accueillir Madame Désiel qui est avec nous en studio, je lui offre cette chanson de celle qui, à mon avis, personnifie l'aidante naturelle par excellence, Chloé Sainte-Marie, qui jusqu'à la toute fin de la vie de son conjoint, le cinéaste Gilles Carle a été présente pour lui. Alors voici « Chant pour l'humanité aidante » de Chloé Sainte-Marie.
Tout ce que nous accomplissons, tout ce que nous chantons sans même ouvrir la bouche, le silence de nos jongleries, l'envolée d'une prière, de nos espoirs, de nos rêves, de ce souvenir d'enfance qui ressurgit en souriant. Pour se jouer de la maladie, de nos secrets, de nos promesses, de nos projets, de nos prouesses. Aidantes aidées et des aidants, aidantes aidées et des aidants, sous aidants, en pleine aidance, et des aidants, aidantes aidées.
Moi qui viens te porter aide. Affliction, aménité et bonté, un œil en larmes retenues et l'autre en joie contenue. Je refuse toute colère, j'implore les dieux de me délester de toute révolte.
Dans, en pleine danse, et des aidants, aidants. Petite lumière qui résiste, le feu pilote qui reste allumé lorsque tout paraît éteint.
C'était « Chant pour l'humanité aidante » de Chloé Sainte-Marie, qui est vraiment un symbole des aidants naturels. Et pour discuter de ce sujet si important, j'ai en studio, oui, le plaisir d'avoir une vraie personne en studio devant moi, derrière le plexiglas, Mme Nathalie Désiel, qui est directrice du regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal depuis 2 ans et demi. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Alors, je dois avouer que c'est grâce à Chloé Sainte-Marie que j'ai pris connaissance de ce terme-là d'aidant naturel, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, je n'étais pas nécessairement à un âge où je me sentais vraiment interpellée par le thème. Puis c'est sûr que là, avec nos proches qui vieillissent, on est de plus en plus conscients de ça. Et la COVID également nous a mis la réalité des personnes aînées aussi en plein visage. Donc, quand on parle d'aidant naturel, on parle de quoi exactement?
Bien, c'est à la base, c'est une expression d'autodétermination. Donc, on ne peut pas décider que quelqu'un est proche aidant ou aidant naturel, c'est la personne qui le définit elle-même. Mmh. Et ce que c'est un proche aidant ou un aidant naturel, je dirais aidant naturel, c'était l'expression employée plutôt avant, puisqu'il liait au lien filial. C'était souvent le mari, la femme, les parents, les enfants qui s'occupaient. C'était beaucoup dans la cellule familiale, d'où le naturel dans l'expression. Les proches aidants, je dirais que ça regroupe plus la réalité actuelle des proches aidants, qui peuvent être de tous horizons, des voisins, des amis, la nouvelle famille, finalement. Donc, c'est vraiment au moment où la personne décide de se reconnaître comme proche aidant qu'on peut décider qu'elle est proche aidant. Puis, qu'est-ce que ça fait un proche aidant? Dans le fond, ça offre des soins gratuitement, de soutien, de support, autant des soins physiques que du support moral, d'aller juste visiter sa mère, on peut être proche aidant comme ça.
Mais justement, moi, je l'avais toujours associé à quelque chose, je ne sais pas, au-delà du rôle un peu, on dit aidant naturel, ouais. Mais pour moi, aller visiter ma mère, je ne sais pas, je ne me reconnais pas dans un rôle de proche aidant. Je me dis, je suis sa fille. C'est quelque chose qu'on doit faire. Et là, je lisais un petit peu dans la documentation pour me préparer à l'émission. Que dès qu'on commence à prendre soin de nos proches malades ou en perte d'autonomie à raison d'une heure ou plus par semaine, vous êtes proche aidant. Et ça m'a frappée. Je me disais, une heure par semaine, c'est pas énorme. Donc, de là, pour moi, un proche aidant, là, c'est vraiment quelqu'un qui met quasiment sa vie en suspens là, pour aider.
Ce qui va souvent être le cas, je dirais, à la fin. Parce que souvent, le processus commence quand, par exemple, il y a un diagnostic, quand, par exemple, il y a un accident qui rend une personne moins autonome pour une convalescence ou pour la vie. Donc souvent, par exemple, dans un diagnostic de maladie, ben oui, effectivement, au début, ça va être une visite pour aller voir si elle a fait son épicerie, pour valider certaines choses. Mais plus le temps va avancer, plus ben, l'heure va devenir une heure à tous les jours. Finalement, ben là, ça va être d'organiser les soins à domicile pour la mère. Ben là, c'est les rendez-vous que vous êtes en charge. Fait que finalement, j'aime bien employer que c'est sournois. Parce qu'au départ, on commence en disant « c'est rien, c'est normal, c'est ma tâche de fille, c'est ma tâche de femme ». Et évidemment, bien là, c'est que là, oups, la vie sociale en prend un coup parce que là, finalement, il faut que je m'occupe de ma mère. Donc, c'est toute l'espèce de surcharge d'une vie normale qu'on aurait. C'est ce qu'on est. Dans le fond, c'est ça, être proche aidant.
ça m'interpelle ce que vous dites par sournois, parce que c'est comme si c'est pas un contrat qu'on reçoit et on dit, OK, voici toutes les clauses, voici tous les engagements. Et j'imagine que quand c'est quelqu'un que l'on aime, ben c'est comme difficile d'y aller avec un contrat de « je vais accepter telle clause ou pas telle clause ». C'est qu'on aime la personne et là, on est engagé dans un processus. Donc, comment réaliser que ça peut être trop pour nous?
Ben tu sais, ça aussi, c'est un choix éclairé, c'est un choix volontaire. T'sais. Des fois, moi, j'ai tout le temps tendance à dire que c'est plus ou moins volontaire parce que quand... Comme vous dites, quand il y a le lien filial, si mon conjoint tombe malade et il devient inapte, ben je vais m'en occuper sans me poser la question. Par contre, est-ce que j'ai décidé ça dans ma vie, de, par exemple, passer 20 heures de mon temps? Ben non. Puis des fois, c'est là où la proportion de s'occuper de soi puis de prendre soin de l'autre est difficile à cerner. Puis je dirais que c'est là souvent le problème, c'est que les proches aidants vont en prendre beaucoup sur eux. En se disant, ben non, c'est normal, je l'aime, c'est pas une tâche, jusqu'à temps que l'épuisement se fait sentir, l'appauvrissement, toutes les conséquences un peu néfastes, c'est par exemple perdre son emploi parce qu'on manque trop souvent pour s'occuper de son proche, ou souvent des fois on a vu, par exemple, une conjointe que son mari devient handicapé suite à un accident, elle lâche son emploi pour pouvoir s'occuper de lui. Mais c'est la pire chose à faire parce qu'il y a d'autres démarches avant d'aller chercher de l'aide. Fait que souvent, les gens vont réagir sous le choc. C'est pas nécessairement les bonnes décisions, ou du moins, ils sont pas préparés à l'ampleur de la tâche des années à venir, là.
Donc, c'est pour ça qu'un organisme comme le vôtre existe, pour les aiguiller à toutes ces démarches-là préparatoires. Donc, qu'est-ce que vous faites concrètement là, pour soutenir les proches aidants?
Pour la petite historique, nous, en fait, on existe depuis 92. D'accord. Et je tiens toujours à rappeler les départs de notre organisme parce que c'est des proches aidants. C'est des aidants naturels qui ont dit « ça suffit, on veut un endroit où se recueillir, où s'échanger entre nous nos difficultés pour se former, pour savoir où... pour se défendre, pour faire reconnaître le rôle de proche aidant. On s'entend, de 92 à 2021, il y a eu énormément de chemin qui a été fait avec le gouvernement, etc. Fait qu'au départ, c'était vraiment ça, l'espèce d'être ensemble, de se rassembler. Puis je dirais que ça a beaucoup conservé cet esprit-là dans l'optique du par et pour. Nous, ma collègue Sylvie Riopel, qui est au RAM depuis 12 ans maintenant, a beaucoup la philosophie d'aller chercher les sujets des proches qui veulent discuter. Donc,
vous dites, Nathalie, par et pour, je veux juste bien comprendre.
Ben, ce qui veut dire que, comme l'organisme a été mis sur pied par des proches aidants, nous, on tient beaucoup à ce que, par exemple, notre conseil d'administration soit encore des personnes proches aidantes.
D'accord.
Pour que les décisions soient prises en fonction de cette réflexion-là. Et le par et pour dans les groupes d'entraide, c'est que entre eux, les membres vont décider du prochain sujet. Par exemple, en ce moment, la culpabilité est vraiment difficile à vivre. Bon, mais le prochain groupe d'entraide, on fait ça. Fait qu'un des gros éléments qu'on fait, c'est des groupes d'entraide sur différents thèmes. Des fois, c'est plus, par exemple, on a débuté, le hasard a fait que pendant la pandémie, nous, on avait déjà prévu de mettre sur pied, de commencer un groupe d'entraide sur le deuil. Donc, il est lancé en ce moment, c'est des groupes fermés. Sinon, on fait des conférences beaucoup sur l'actualité, par exemple, la politique de la loi des proches aidants, pour informer les gens, les crédits d'impôt. Mais aussi, on va faire de la sensibilisation dans d'autres organismes, donner des conférences sur qui sont les proches aidants, qu'est-ce qu'ils font. Fait que c'est beaucoup à ce niveau-là qu'on travaille, mais aussi, on est une ligne d'écoute et de référence, donc les proches qui ont besoin d'informations nous appellent.
Donc, j'imagine d'écoute, de référence. Et si vous constatez que les gens ont besoin de répit, là, vous pouvez faire des liens avec des organismes qui peuvent aider, par exemple, notre mère a besoin de beaucoup de transport à l'hôpital, mais qu'on ne peut pas peut-être avoir accès à des bénévoles qui peuvent nous aider à aider.
On travaille beaucoup en collaboration avec les organismes du milieu qui, justement, peuvent avoir des services plus précis. Nous, depuis toujours, on a remboursé le répit aux membres. Donc, si quelqu'un voulait venir à un atelier, on lui remboursait le répit à la maison. Par contre, là, en pandémie, on n'a plus d'activité en personne. C'est tout en Zoom. Donc là, cette année, j'ai quand même mis l'avant le répit. Donc, on a fait une entente avec une entreprise de répit. Donc, nos membres ont un certain nombre d'heures gratuites de répit offertes par l'entreprise avec qui on a fait une affaire pour prendre une pause parce qu'en ce moment, les gens sont épuisés.
Oui, je peux imaginer. On a toujours cette phrase classique-là, c'est une phrase, la fameuse phrase dans un avion, là, de mettre notre masque à oxygène avant d'aider quelqu'un d'autre. quoi que je parle d'avion, j'ai l'impression qu'on parle d'une autre époque.
C'est ça.
Mais il reste que ça demeure une illustration parfaite de à quel point c'est important prendre soin de soi pour être en mesure. Mais j'imagine que là, justement, la culpabilité de dire si je prends du temps pour moi, je ne suis pas en train d'aider. Mais comment on fait pour réaliser justement qu'on a besoin de se ressourcer si on veut être un bon aidant?
Bien, le problème malheureux, c'est que souvent les gens vont attendre d'être à l'épuisement avant d'aller chercher de l'aide. Fait que nous, on essaie de travailler beaucoup en amont à dire, bien, dès le moment que vous sentez que vous êtes proche aidant, même si vous ne prenez pas les ressources d'aide, voici quelles sont les ressources d'aide. Donc, de déjà faire savoir à la personne tout ce qui existe.
Semer un petit peu la...
Exactement. De travailler à dire, vous avez droit à ci, à ça. Vous pouvez parler à des gens dans un groupe d'entraide. Vous pouvez avoir du répit. De nommer ce à quoi ils ont droit, fait un petit chemin, puis au bout du temps, ils finissent. Mais sinon, nous, on a beaucoup travaillé aussi l'année dernière avec une campagne de sensibilisation qui s'appelait « Je suis proche aidant ». Toujours disponible, on a gardé le site internet le jesuisprochainaidant.com et ces quatre capsules qui illustrent différents types de proches aidants pour aider un peu les gens, justement, comme vous dites, quand on va visiter une heure par semaine, je suis pas proche aidante, mais nous, le message qu'on lance, bien, attendez pas d'être épuisé avant d'aller chercher de l'aide. T'sais, cette heure-là que vous donnez, bien, vous êtes déjà une proche aidante.
Excellent. On va parler de ces quatre personnages-là, si vous voulez bien, après une chanson qui s'appelle « Milan ». Et c'est de Dominique Grenier.
Je fais de mon mieux à tous les jours. J'essaie de faire la différence. Contre la peur qui nous entoure, contre les heures et le silence. Si à chaque jour suffit sa peine, la nôtre aura bientôt 1000 ans. J'ai tant reçu de cet amour, assez pour donner au suivant. J'avancerai au rythme de tes pas. Tu me compteras ta journée, et des jours on en rira, mais les autres où tout sera au plus bas. Toujours perché sur ton épaule, ma part de l'ange te sourira. Ça sert à rien que je te dise, j'ai pas besoin d'une bonne raison. Du courage héroïque, c'est seulement que j'ai l'impression d'être à ma place à tes côtés, et ça pour au moins 1000 ans. On verra bien au fil des jours qui des deux donnera au suivant. J'avancerai au rythme de tes pas. Tu me compteras ta journée, des jours on en rira, mais les autres où tout sera au plus bas. Toujours perché sur ton épaule, ma part de l'ange te sourira. J'avancerai au rythme de tes pas. Tu me compteras ta journée, et des jours on en rira, mais les autres où tout sera au plus bas. Toujours perché sur ton épaule, ma part de l'ange te sourira.
C'était Milan de Dominique Grenier. Nous sommes toujours avec Nathalie Désiel, directrice du regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal. Et tout juste avant la pièce musicale, on parlait de la campagne Je suis proche aidant.com et des quatre types d'aidants naturels. Donc, je suis curieuse de vous entendre sur ces quatre grands personnages ou scénarios d'aidants.
T'sais, en fait, l'idée, c'est ça. Le projet de base, c'était de permettre aux proches aidants de se reconnaître. Et nous, on stipule depuis le début qu'un proche aidant, c'est quelqu'un de tous âges, de toute culture. Donc, c'est pas juste un proche aidant d'aîné. Donc, pour ça, on a voulu imaginer quatre types de relations filiales qui définissent, dans le fond, la proche aidance. La première image, c'était une jeune fille qui se rend chez sa mère qui est assez âgée et qui a des problèmes respiratoires. Donc, elle doit lui faire le lavage de cheveux, qui est une tâche très simple. Mais c'est ça. L'idée des capsules, c'est de démontrer des tâches simples du départ pour dire aux gens de ne pas attendre d'être dépassés. Donc, c'est la première exposition d'image. L'autre scénario, c'est un mari âgé qui s'occupe de sa femme avec sa médication. Donc, une des tâches assez simples que les proches aidants font souvent. L'autre image, c'est une fille qui est au travail, une fille d'une quarantaine d'années, et qui reçoit un téléphone de son père qui lui demande de l'assistance ou de l'aide là, au moment immédiat. Donc, elle doit quitter le travail. Donc, c'est un peu l'exposition des travailleurs qui sont des fois pris avec l'employeur, les congés, etc. Et le dernier, que je trouve très important aussi, parce qu'il illustre un peu une réalité plus moderne, je dirais, c'est un voisin qui a été chercher la médication de son voisin à la pharmacie et qui, en plus, lui amène un petit plat. Donc, il amène les médicaments et le plat à son voisin. Puis donc là encore là, c'est une image très simple qui peut sembler « ben non, je ne suis pas proche aidant, je fais juste l'aider ». Mais éventuellement, si cette aide-là grandit, ben ça, on peut devenir proche aidant de son voisin. C'est de plus en plus fréquent, je dirais.
On parlait, Nathalie, pendant la pièce musicale, de la culpabilité, qui est un sentiment qu'on entend beaucoup. J'aimerais ça vous entendre. Comment on arrive à briser ce cycle-là? Et est-ce que c'est plus facile, par exemple, dans les familles où il y a plus d'enfants parce qu'on peut se répartir les tâches? Quoique j'imagine que c'est pas tout le monde qui est prêt à le prendre non plus ou qui a la disponibilité. Ou en même temps, on va dire, ben je l'ai pas plus que toi, mais il faut que quelqu'un le fasse.
Bien, souvent, même dans les grandes familles, tu sais, je prends un exemple, par exemple, de la mère qui s'occupe de son mari, qui a la maladie d'Alzheimer, par exemple, puis qui a des enfants qui peuvent donner de l'aide. Souvent, ce qui va se passer, c'est que la mère ne va pas l'accepter parce que selon elle, elle est la personne la mieux placée pour s'occuper de lui, puis je peux pas le laisser seul.
Ouais.
Donc, l'importance de mettre l'accent, comme vous disiez tantôt, de mettre son masque à oxygène en premier, de faire comprendre à la personne que si elle n'en a plus d'oxygène, elle ne sera plus en mesure de l'aider. Et souvent, les proches aidants sont dans une position tellement sur la corde raide, je dirais, qu'ils doivent donner les soins, parce que sinon la personne va aller en établissement. Bien là, ils veulent surtout pas lâcher le morceau parce qu'ils veulent pas que la personne aille en établissement, mais c'est de faire prendre conscience que si, justement, elle s'épuise, bien le CLSC vont juste sortir la personne puis ils vont la placer en établissement. Donc, c'est de pas se rendre là, d'essayer de mettre l'accent sur la personne que sa santé est essentielle au bien-être de son aidé.
Puis à l'inverse, si on parle d'une personne, qu'on est un enfant, ou je prends ça comme exemple, et on voit que notre parent commence à dépérir, mais ne veut pas être aidé. Je ne sais pas si c'est une question d'orgueil ou de fierté. Et je vous dirais, j'ai été vraiment interpellée par ça le mois dernier. J'ai été malade pendant une semaine et j'avais de la difficulté à demander de l'aide. Et ma jeune sœur m'a dit, là, il va falloir que tu règles ça, parce qu'elle dit, quand tu vas être plus âgée, là, elle dit, il va falloir que tu nous laisses t'aider. Et que j'ai pas filé bien.
Mais c'est vrai, c'est une grande leçon d'humilité, puis je pense que ça appartient à tout le monde. On a tous des limites qu'on dépasse, qu'on devrait pas. Moi-même, je tombe malade une fois par année parce que je m'écoute pas. Fait que tu sais, je pense que c'est assez généralisé comme feeling de dépassement ou de pas voir ses limites ou pas avoir besoin d'aide. Je dirais que l'important, c'est d'être présent. Souvent, on va finir par se tanner puis dire « Ah là, j'y dirai plus ». Je pense que c'est l'erreur à faire. Je pense que le fait de le répéter à la personne, ça permet de marquer l'ampleur du besoin d'aide ou marquer l'ampleur de la situation, je dirais. Fait que de rester présent, d'être bienveillant avec la personne, même si des fois, on a envie de la brasser un peu et de dire « là, ça suffit, là ». Effectivement, à un moment, je pense qu'il faut peut-être arriver au stade de dire « là, ça suffit, puis l'aide, elle est nécessaire ». Mais je pense qu'en restant bienveillant, puis à l'écoute, puis en répétant, comme je disais tantôt, en nommant les types de ressources, on pourrait faire venir quelqu'un pour t'aider pour ton ménage, on pourrait, tu sais, de nommer clairement quelles sont les solutions concrètes, je pense que ça peut aider la personne éventuellement à être un peu plus, être un peu plus ouvert à recevoir de l'aide.
Mais dans un contexte, justement, où, tu sais, des fois, on parlait justement pendant la pièce musicale, et des fois, les rôles s'inversent. Quand on est un parent, on a de la difficulté à laisser aller notre enfant, de le confier à d'autres, puis on est vraiment comme en protection, et tout à coup, ça s'inverse un petit peu plus tard dans le contexte d'un parent, justement, que on se retrouve dans un mode solution pour essayer de l'aider, puis la personne est tellement prise dans ses, je veux pas dire le mot pattern, mais dans ses habitudes de vie bien ancrées, même si elles sont néfastes pour elle, tu sais, comment arriver à respecter ces limites-là?
C'est vraiment difficile. Parce que il y a les limites aussi du proche aidant. Tu sais, le proche aidant, il veut le bien-être de la personne. Donc, si par exemple, son aidé s'entête à pas ne recevoir des soins de santé, des, tu sais, je pense qu'à un moment, il faut aller se faire accompagner. Tu sais, aller chercher de l'aide, autant du CLSC, de la travailleuse sociale, qui connaît bien votre parent, de l'organisme, par exemple, comme le RAM, si l'intervenante est en lien de confiance avec la personne, tu sais, aidez, faites-vous aider par les gens. Je pense que des fois, de l'entendre de l'extérieur, quand ça vient de notre famille, c'est « ben oui, c'est sûr, vous me dites tout le temps ça », mais quand c'est quelqu'un de l'extérieur qui dit « non, non, c'est important », déjà, ça fait un autre regard. Mais d'en parler, d'aller chercher de l'aide, je pense que c'est toujours essentiel pour surmonter ces genres d'épreuves-là.
Peut-être une dernière question rapidement. Est-ce qu'il y a davantage d'aidants naturels dans les communautés ethniques ou les communautés autochtones?
Bien, moi, je pense qu'ils sont très présents parce que dans les communautés autochtones, autant que les communautés migrantes, la famille est un élément essentiel. Donc, pour eux, la grand-mère habite à la maison et c'est normal. Personne ne se pose la question. Tout le monde s'en occupe. Mais est-ce qu'ils se reconnaissent comme proches aidants? Moi, je doute fort. Je pense qu'il y aurait un travail énorme à faire auprès des communautés parce qu'ils vont moins chercher les ressources d'aide puisque pour eux, ce n'est que leur rôle de père, mère, fils de s'occuper de la grand-mère, par exemple.
Fort intéressant. Donc, je répète le site Internet, je suis prochaidant.com. On retrouve tout plein de conseils, des groupes d'entraide, tout pour aider à s'aider à aider. Merci beaucoup, Nathalie Désiel.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
Je l'ai trouvé devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. Partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà. La renifleuse des amours mortes, elle m'a suivi pas à pas la gare. Que le diable l'emporte, elle est revenue, elle est là. Avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés, elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer. Elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits désolées la gaze. Elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. Dans ta triste robe de moire, avec tes cheveux mal peignés, à la mine du désespoir, tu n'es pas belle à regarder. Allez, va t'emporter ailleurs, ta triste gueule, de l'ennui. Je n'ai pas le goût du malheur, va t'en voir ailleurs si j'y suis. Je veux encore rouler des hanches, je veux me saouler de printemps. Je veux m'en payer des nuits blanches, à cœur qui bat, à cœur battant. Avant que sonne le blême et jusqu'à mon souffle dernier, je veux encore dire je t'aime. Vouloir mourir d'aimer. Elle a dit, ouvre-moi ta porte, je t'avais suivi pas à pas. Je sais que tes amours sont mortes, je suis revenue, me voilà. Ils t'ont récité leurs poèmes, tes beaux messieurs, tes beaux enfants, tes faux Rimbaud, tes faux Verlaine. Eh bien, c'est fini maintenant. Depuis, elle me fait les nuits blanches, elle s'est pendue à mon cou. Elle s'est enroulée à mes hanches, elle se couche à mes genoux. Partout, elle m'a fait escorte, elle me suit pas à pas. Elle m'attend devant ma porte, elle est revenue, elle est là. la solitude, la solitude.
Solitude de Barbara. Une grande chanson pour introduire une grande dame. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui une grande dame des mots, l'écrivaine Louise Portal, chanteuse et formidable actrice. Cela me touche particulièrement de la recevoir, Louise, que ma maman est aussi originaire du Saguenay et mon père m'a un jour offert son livre « L'Enchanté » dans lequel il avait écrit « Quand tu auras fini ce livre, nous aurons voyagé ensemble ». Nous recevons Louise Portal à Au fil du temps pour son livre « Seule, ces femmes que j'aime » aux éditions Druide. Bonjour Louise!
Oh mon Dieu, quelle belle introduction! On a déjà un lien de parenté, ça me réjouit le cœur!
C'est formidable d'entendre votre voix que j'ai si souvent entendue comme actrice, comme chanteuse et dans ma tête en vous lisant, mais de vous entendre à Au fil du temps, ça me touche beaucoup!
Oui, ben en plus, je suis au Saguenay en ce moment, Chantal.
Ah oui?
Oui, parce que j'ai fait un retour aux sources il y a trois ans. Mon mari et moi, on a acheté un chalet qui est voisin, en fait, du terrain du chalet de mon enfance, qui appartient maintenant à mon frère seulement. Et puis, je pensais jamais qu'un jour, je reviendrais dans mon coin de pays. Et là, avec la pandémie, on est ici depuis presque un an à temps plein. Tout se fait par Zoom et par... Mais heureusement, hein, parce qu'on peut être ensemble aujourd'hui. Alors, c'est une journée bleue, magnifique, encore froide, mais de toute beauté. La nature du Nord est splendide.
Absolument. Je prenais connaissance de votre livre « Seules, ces femmes que j'aime » que vous avez présenté comme un livre de chevet, un livre un peu méditatif parce que chacun de ces chapitres-là se lit un à la fois pour bien s'en imprégner. Je trouve que c'est une très belle image. Et j'ai envie de vous demander, là, comment c'est venu cette idée-là de vouloir dépeindre des portraits de femmes qui apprivoisent leur solitude et en font quelque chose de signifiant?
Bien, quand j'ai franchi le cap de 65 ans, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait beaucoup de femmes autour de moi, de ma génération ou un peu plus jeune, qui vieillissaient seules. Et je les ai comme reçues dans mon imaginaire en me disant, mon Dieu, qu'elles ont de la résilience, qu'elles ont trouvé une manière de magnifier cette solitude et ce n'est pas un isolement, mais bien une solitude pour entrer en soi et devenir très créative dans différents aspects de notre vie. Alors, c'était une façon pour moi de leur rendre hommage. Évidemment, je ne les nomme pas par leur vrai nom. Je leur ai donné à chacune un prénom qui résonnait. Moi, les prénoms, c'est bien important pour moi. Et puis, finalement, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai commencé avec un portrait, deux portraits, trois portraits, puis... Quand j'ai parlé avec ma directrice littéraire chez Druide, Anne-Marie Villeneuve, elle m'a dit « Ah, comme c'est intéressant, allons-y ». Puis finalement, c'est un livre qui fait une carrière au chevet de beaucoup de femmes et je suis contente.
Et comment, dans ces récits-là, vous voyez la perspective générationnelle? Parce qu'il y a des femmes de différentes générations que vous dépeignez. Comment vous avez... Est-ce qu'on est capable de faire une perspective intergénérationnelle que la solitude est plus facile dans telle ou telle génération?
Bien, je pense que c'est intéressant, votre question, Chantal, parce qu'effectivement, la plus jeune dans mes portraits a 48 ans et l'aînée, à ce moment-là, au moment où le livre sort, elle a 98 ans, mais maintenant, c'est... En fait, c'est ma grand-maman d'adoption.
Oui, j'ai lu ça.
Qui a eu 100 ans. Je pense qu'on est toujours seul. Je crois qu'on a toujours un espace de vie intérieur et puis que c'est cet espace-là qu'il faut apprivoiser. Donc, dans le livre, la solitude de celle qui a 48 ans et celle qui a 96 ans, 98 ans, c'est une même solitude dans le sens que on a à apprivoiser cet espace dans nos vies où on est vraiment seul. Mm-hmm. On peut avoir des conseils, des amis, un conjoint, une conjointe, des enfants, des petits-enfants. Mais il y a comme un espace dans nos vies où on est responsable je dirais de semer quelque chose qui va faire fleurir de la beauté, de l'harmonie autour de nous. Et c'est un peu ça que j'ai voulu montrer sous différents scénarios. On peut avoir vécu une rupture amoureuse ou un burn-out ou une maladie. Qu'est-ce qu'on fait avec l'épreuve qui nous est amenée et comment on va se reconstruire ou continuer notre chemin à travers ça?
Ce que j'entendais aussi, en fait, ce que je devinais à travers vos mots, c'était à quel point la solitude, justement, peut être un endroit pour se reconstruire et un endroit qui peut devenir un levier de guérison.
Absolument. D'abord, les mots, c'est une guérison.
Oui.
L'écriture aussi, on est tellement chanceux de savoir lire, de savoir écrire. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours cultivé ma vie intérieure. Mm-hmm. J'avais 25 ans, puis j'ai quitté un téléroman qui marchait très bien à Radio-Canada, qui s'appelait La Petite Semaine, pour partir avec un pack-sac, puis partir vers le Pérou.
Wow. Alors,
je me suis retrouvée en Italie, là, puis je me suis séparée. Entre-temps, je compte tout ça dans mon roman L'actrice, là, mais j'ai toujours essayé de répondre à l'élan, puis c'est toujours par la voix intérieure, parce que c'est comme si on laisse la place à l'inconscient, on laisse la place au murmure de notre essence, dans le fond, puis ça, c'est peut-être que ça s'épanouit davantage pour moi, beaucoup, en tout cas dans l'écriture. J'ai toujours essayé de privilégier cette île, ce paysage intérieur pour arriver à marcher vers la réalisation de moi, de ma mission de vie, de mon existence, finalement.
J'ai lu ça, justement, que vous aviez 109 cahiers.
Ah, là, je suis rendue à bien plus que ça, ma chère. Là, je termine demain. D'ailleurs, c'est le printemps, mon 126e cahier.
Wow.
Et dans ce temps-là, c'est toujours un point tournant pour moi parce que là, le lendemain, donc ça veut dire dimanche, je vais commencer un nouveau cahier que je me suis acheté cette semaine. Il est mauve. Et puis, c'est toujours comme un rituel particulier de débuter un roman, là, un nouveau cahier. Là, ce qui est particulier dans le cahier que je termine, c'est que j'ai beaucoup dessiné dedans. Et parce que je viens de retrouver, à cause de cet isolement, ce confinement en pandémie, je me suis remis au dessin, puis je retrouve mon enfant intérieur, c'est merveilleux, parce que moi, j'ai suivi beaucoup des cours de dessin quand j'étais à l'école primaire. Alors, j'ai découvert le théâtre à l'école secondaire, mais au primaire, je chantais dans une chorale, puis je dessinais. Fait, moi, là, je suis tombée dedans quand j'étais petite, dans l'art. Je suis une artiste. Vraiment, j'en doute pas maintenant.
sous plein de facettes, vous dites « j'en doute pas maintenant ». Est-ce qu'il y a eu une époque où vous en doutiez?
Non. Je dis ça, là, si j'étais près de vous, Chantal, vous verriez que j'ai un petit sourire en coin. Là. Non, j'ai toujours ressenti que c'était ça ma voix, puis elle ne m'a jamais trompée dans le fond. Là. Je l'ai toujours écoutée.
Si vous voulez bien, Louise, on va écouter une pièce musicale ultra moderne Solitude d'Alain Souchon. Et on reprend notre entretien tout de suite après.
Merci.
Ça se passe boulevard Haussmann à 5h. Elle sent venir une larme de son cœur. D'un revers de la main, elle efface. Des fois, on sait pas bien ce qui se passe. Pourquoi ces rivières, soudain sur les joues qui coulent, dans la fourmilière, c'est à Manhattan dans un cœur. Il sent monter une vague des profondeurs. Pourtant j'ai des amis sans bye-bye. Du soleil, un amour, du travail. Pourquoi ces rivières? Qui coule dans la fourmilière,
chaque seconde. Des visages tout d'un coup s'inondent. Un revers de la main efface. Des fois on sait pas bien ce qui se passe. Pourquoi c'est les hangars, les tempos, les harmonies, les guitares. On danse des étés entiers au soleil, mais la musique est mouillée pareil. Pourquoi ce mystère, malgré la chaleur des foules, dans les yeux
moderne solitude d'Alain Souchon. Et pendant la pause musicale, Maurice en régie me disait ben finalement, c'est peut-être ultra moderne solitude à voir à quel point on est connecté, mais finalement, des fois, on est encore plus seul derrière nos appareils. Alors, je retrouve avec plaisir Louise Portal. Hey, Louise, vous parliez des prénoms tout à l'heure. Je ne vous ai pas dit, ma mère s'appelle aussi Louise.
Ah bon, ben gardez dans ça.
Vous avez dit quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, la différence entre l'isolement et la solitude.
Oui, oui, bien sûr. Écoute, l'isolement, là, c'est qu'il y a une fermeture. Hein?
Mm.
Il y a une fermeture du cœur, d'abord. Et puis, il y a souvent, parfois, un peu comme une espèce de détresse. Mm. Des fois, il y a comme on est comme nourri par une grande solitude d'isolement parce qu'on ne sait pas comment nommer nos peines, on n'a pas d'échange avec les autres. Puis moi, je vois dans la pandémie, là, moi, je donne un atelier d'écriture avec des personnes âgées là, par Zoom.
Ah oui?
Oui, puis ça fait là, on termine la semaine prochaine, c'est 4 semaines, puis on revisite, c'est le journal de votre vie, tu sais, l'enfance, l'adolescence. 20, 30, 40, 50 ans, et les 60 ans et plus. Et c'est absolument magnifique. Et je vois des dames qui ont 72, 78, 80, 84 ans, qui sont devant leur ordi. On est tout en Zoom.
Mm-hmm.
Et puis, il y a des plages d'écriture avec de la musique. Puis ensuite, on partage. Il y en a qui nous lisent des extraits. C'est absolument extraordinaire. Alors, voyez-vous, même dans le confinement, même dans l'âge avancé, chacun chez soi peut rejoindre l'autre. Mais il faut se présenter. C'est comme dans n'importe quoi. Il faut se présenter à l'amour, il faut se présenter à l'autre, il faut se présenter dans le partage, dans le témoignage, dans l'échange. Alors, ça là, c'est nous qui avons à faire ça. Alors, c'est ce que j'appelle une solitude enrichie.
Mm-hmm. Oui.
Enrichie par la réflexion intérieure et par le partage avec l'autre.
J'aime beaucoup ça. Il faut se présenter. C'est déjà de faire acte de présence et de dire « je suis disponible à recevoir ».
Oui, bien moi, c'est ce que je leur dis en écriture. Mm-hmm. On n'a pas besoin de savoir bien écrire. On se présente devant son cahier, on l'ouvre et puis on laisse monter ce qui vient. Alors là, je leur parle du paysage intérieur, du paysage extérieur. Évidemment, c'est un guide. Là, mon livre, le journal de ma vie, guidé par Louise Portal, ça les guide un peu de comment aborder. Ça peut être... coller une image de vous quand vous étiez enfant, puis là, ça vous amène à parler de votre enfance. Bon, il y a toutes sortes de... Moi, il faut que ça soit ludique, il faut mm-hmm. que ça soit agréable.
Donc, des dessins aussi.
Ah oui, on n'est pas en première... On est en première année B, là, mais on a du plaisir, là. Tu sais, on n'est pas... Parce que moi, j'aimais pas l'école, mais j'aimais l'école quand on... J'étais toujours première en méthodologie dans mes cahiers parce que je faisais des super beaux cahiers, puis j'ai 70 ans, puis je fais encore ça.
Pour continuer sur la solitude aussi, j'ai une phrase oui. que j'aime beaucoup qui dit « Ne laisse entrer dans ta vie que des gens qui ont des fleurs à planter. »
Oui.
Et comment, oui. dans ce livre que vous avez écrit, comment vous avez vu que ces 15 femmes-là ont réussi justement à se présenter, mais en même temps à faire le tri de laisser entrer des gens qui ont des... Parce que des fois, on va laisser entrer des gens parce qu'on se sent seul, mais ils n'ont pas nécessairement des fleurs à planter.
Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être des envahisseurs. Hein? Il faut mm-hmm. faire attention. Là, tu sais, notre vie, c'est un jardin, puis il faut faire attention aux mauvaises herbes. Il faut les enlever. Il faut jardiner un peu tous les mm-hmm. jours. Hein? C'est vrai dans l'amour, mais c'est vrai dans l'amitié aussi. Mais chaque personne a réussi à créer dans sa vie, à faire fleurir mm-hmm. quelque chose qui était du domaine de la créativité. Est-ce que je pourrais vous lire un petit extrait d'un des portraits?
Absolument, je vous écoute, bon,
C'est le portrait de Susan qui est en fait seule en exploration. Alors, c'est juste un petit extrait.
Mm-hmm.
La solitude, elle en a fait la conquête d'un voyage à l'autre. Je l'ai vue revenir un jour de son pèlerinage sur le chemin de Compostelle, mm-hmm. animée d'une ferveur renouvelée face à la vie. Elle avait marché, ses pas avançant vers ce qui s'offrait à elle. Devant et simultanément, elle parcourait en réflexion le chemin de sa vie à rebours.
Mmh.
Elle venait d'arpenter son pays intérieur. Elle se sentait enfin apaisée. Et je savais que chaque jour sur le chemin, elle avait marché avec une intention, une pensée de bienveillance pour une personne de son entourage. Elle nous avait tous amenés avec elle sur cette route de transfiguration, ce chemin millénaire emprunté par tant de pèlerins fidèles en quête de lumière. Alors, voyez-vous, mmh, mon amie Susan, c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée se recueillir mmh. avec elle-même dans ce pèlerinage sur le chemin de Compostelle, mais chaque jour, elle nous amenait avec elle et dans chaque halte, soit qu'elle déposait une pierre, une intention, mmh. un mot, c'est quand même... C'est aller vers l'autre, ça, c'est être dans oui. une solitude qui est partagée, qui est créative, absolument. Qui est ouverte sur l'autre.
Absolument. Donc là, on n'est pas dans l'isolement, on est justement pas dans la tout. Solitude qui est bénéfique. Comme j'avais oui. l'habitude, quand j'étais avec le père de mon fils, de partir une fois par année, un week-end seul, pour faire oui. un peu le ménage. Et je me rappelle que mon beau-père, à l'époque, était inquiet de ça et voyait ça comme si ça allait pas bien, alors que je disais au contraire, ça fait de moi quelqu'un de plus connecté qui fait la part entre moi et les autres.
Ben oui, parce qu'on a besoin de ressourcement. Hein. Nous, le matin, mm-hmm. là, Jacques, il se lève toujours, mon mari, une mm-hmm. heure avant moi. Puis moi, je lui dis tout le temps, mais des fois, je me réveille puis je dis, OK, je vais me lever tantôt, je te laisse ton espace.
Ouais.
Puis là, lui, il fait ses exercices, il fait ses ablutions, moi j'appelle ça ses ablutions, là, ses prières. Il fait tout ça, tu sais, puis quand je me lève, le café est prêt, puis là, moi, il me laisse mon espace. Il s'en va dans sa tourelle, puis là, moi, j'ai mon espace pour écrire, puis mon espace pour faire mes petits exercices du matin, ce que j'appelle ma routine physique, mm-hmm. parce qu'il faut s'en occuper.
Ouais.
On s'occupe de notre routine intérieure, mais il faut s'occuper des articulations aussi. Alors... cette pandémie, m'a offert beaucoup de temps, tu sais, parce que je suis quelqu'un mm-hmm. qui a beaucoup travaillé là, oui, dans l'université. Oui. Et ça, là, j'étais en écriture quand même toute l'année, puis en correction de manuscrits, mais c'est pas comme être sur des plateaux de tournage. Là.
Mm-hmm.
Et ça m'a fait beaucoup de bien, j'en avais besoin.
Mm. J'écoutais votre récit et ça m'a fait penser que je vous écoutais, puis je me disais, mon Dieu, j'aurais tendance à vouloir écrire ce qu'elle est en train de dire. Et là, j'apprends que vous allez faire une dictée en virtuel dans quelques jours?
Oui, bien, à la fin du mois, le 27, je vais être l'écrivaine invitée pour la dictée des écrivains Hydro-Québec.
D'accord.
au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, je suis très contente. Là, j'attends de savoir quels extraits de mes livres ils ont choisis. Parce qu'il y a quand même, des adultes, mais je pense qu'il y a quand même aussi des adolescents ou des enfants. Alors, moi, je leur ai donné toutes sortes de pistes, mais je vais voir, là, puis ça va être agréable. Je suis contente parce que je crois qu'ils m'avaient demandé en 2018, puis j'étais pas disponible. Mm-hmm. Mais là, je le suis, et puis ça va me faire vraiment plaisir de faire quelque chose dans ma région natale.
Puis, puisque c'est en ligne, peu importe où on est, au Québec ou même ailleurs, on peut s'inscrire?
Moi, j'ai l'impression, allez voir, là, je crois que c'est possible, la dictée des écrivains Hydro-Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mm-hmm. Et puis, oui, les gens peuvent s'inscrire. Et puis, moi, je vais être avec vous autres le samedi, c'est à 13h, 13h30, le samedi, le 27 mars.
27 à 13h. Et on parlait avant la pièce musicale un peu de quand vous étiez plus jeune, enfant, les dessins et tout ça. Et j'étais curieuse de vous entendre si la Louise de 70 ans avait à donner des conseils à la Louise de 10-15 ans, qu'est-ce que ce serait?
Moi, je lui dirais, là, continue comme ça. Continue d'être qui tu es. Rêveuse un peu, pas nécessairement bonne à l'école, mais fais-toi confiance, puis continue d'avoir ton cœur, ta générosité, puis ton imaginaire aussi, beaucoup. Et puis c'est sûr que je suis beaucoup plus sereine que j'étais une enfant un peu plus réservée, un peu plus solitaire quand j'étais jeune, parce que j'étais habitée beaucoup intérieurement, puis quand on est petit, on vit dans ce monde imaginaire. Et c'est pour ça que le théâtre, quand j'ai découvert le théâtre à l'âge de 15 ans, ça a été une véritable révélation. Faut dire aussi que même plus jeune, je faisais des spectacles à l'école et tout, mais c'est vraiment au moment où je commence à faire du théâtre amateur à Chicoutimi, là, avec Marie Tifour, Rémi Girard, là, Jean-Pierre Bergeron, Anne Masson, là, c'est là que tout s'ouvre pour moi, parce que ça m'a donné confiance en moi, en plus. Mm. Et puis, au fil du temps, parce que c'est ton thème, finalement, j'ai trouvé mon X. Moi, mon X, c'est les mots. Tu m'as présenté avec les mots, puis tu as raison. Moi, que ce soit des mots joués au cinéma, à la télévision, des mots que j'écris, des mots que je chante, des mots que j'écris dans ma correspondance, je suis toujours dans mon essence. Et là, j'ai vraiment saisi ça dans les dernières années, parce que la carrière d'écrivaine a pris beaucoup de place depuis 20 ans dans ma vie. Oui. Je m'ennuie des salons du livre, là.
Ah, ça doit.
Je fais des conférences, mais c'est des conférences Zoom, c'est bien aussi. Mais tu sais, j'aime tellement ça, rencontrer les gens, puis je chante dans mes conférences. Puis, c'est merveilleux. Tu sais, c'est toujours comme une joie.
En fait, c'est des mots qui voyagent. C'est toujours des mots qui sont pour aller à la rencontre. Quand vous êtes dans dans un de vos 120 quelques cahiers, et le prochain qui vous attend, le mauve, vous êtes à la rencontre de vous-même. Sinon, dans vos mots, vous êtes à notre rencontre. C'est vraiment comme un lien.
C'est mon lien. Tu sais, ma plume, là, c'est mon lien avec les lecteurs, les lectrices, les gens. Puis, tu sais, les gens, ils ont besoin d'entendre parler de choses de douceur, de beauté, de d'espérance, de fraternité, de solidarité. Parce qu'il y a aussi tout un aspect de notre monde en ce moment qui est difficile. Il y a beaucoup de, comme on dit en anglais, bashing, toutes sortes de choses. Puis, moi, je vais toujours vers la lumière. Tout le temps. À l'âge que j'ai, là, c'est mon chemin.
Oui, dans les réseaux sociaux, les mots sont pas toujours gracieux, élégants.
C'est parce que ce qu'on voit, par exemple, à travers ça, c'est que les gens, ils ont besoin d'exprimer puis d'exorciser beaucoup de choses. Alors, des fois, ça sort, c'est pas beau, c'est violent, c'est désagréable, mais ça montre aussi que les gens, ils ont comme besoin de prendre parole. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de télé-réalité aussi, là. On le voit que le monde, ils ont besoin d'être reconnus, ils ont besoin de s'exposer. Tu sais, c'est comme un besoin, mais...
Ma belle c'est Louise, ça. On a déjà fini de voyager ensemble au fil du temps. Au plaisir, un grand merci.
Merci.
On vous retrouve la semaine prochaine à Au fil du temps. Merci à toute l'équipe d'Au fil du temps. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une magnifique semaine.